Chers frères et sœurs dans le Messie Yeshua, je vous salue. Bonjour ou bonsoir selon votre position. Que le Ténèbre vous bénisse et vous garde et vous apporte la paix en toutes choses et surtout dans ce monde troublé depuis quelque temps. Donc j'aimerais continuer la seconde partie du message ou bien de l'enseignement que j'avais commencé il y a 2 semaines. Sur le principe des prémices ou des premiers-nés. Voilà, la deuxième partie. Dans la deuxième partie, donc, nous allons voir les exemples, parce que la Bible dit que la vérité est établie sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. D'accord? Donc voilà, donc nous allons voir les exemples. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais expliquer quelque chose, parce que ce principe, en tout cas comme tous les principes qui sont dans la Bible, c'est comme un arbre. Il y a la racine, il y a le tronc, il y a les branches après. Et puis après les feuilles et les fruits, si vous voulez. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un principe? Dans le dictionnaire, on me dit c'est la cause première active. C'est le fondement, l'origine, la source. L'ingrédient, le constituant actif, ce qui est à l'origine de quelque chose, qui en est la cause première. Vous savez voir? Le germe, point de départ. Vous voyez, tout ce que nous venons de dire là, ce sont des attributs, bien des surnoms du Messie. Il s'appelle le germe, n'est-ce pas? Il s'appelle la source, l'origine, le fondement. Nous allons lire ça tout à l'heure. Le point de départ, la base sur laquelle repose l'organisation de quelque chose. La base sur laquelle repose l'organisation du monde, c'est le Messie. Puisque la Bible nous dit que Dieu soutient le monde par sa parole. Ou ce qui régit le fonctionnement. Ce qui régit, voilà. Le fonctionnement de quelque chose. Vous comprenez? Ah là là, ça c'est bien ça. Ça c'est une bonne définition. Donc, je parlais d'un arbre tout à l'heure. Si nous voyons bien, nous pouvons constater que le Messie est la racine de ce principe-là. Il en est l'illustration parfaite également. Lisons simplement dans Colossiens 1. Hein, Colossiens 1, le verset 16 à, ou bien le verset 15 au verset 18. Ou bien verset 19. Voilà, donc on peut dire. En parlant de Yeshua le Messie ou Jésus. Il est l'image du Dieu invisible. C'est ça. Dieu ne peut pas être vu. La Bible nous dit que Dieu est esprit. Dieu n'a pas de corps. Il est esprit. Donc, on ne peut pas le voir. Et que personne n'a jamais vu Dieu. Même pas Abraham. Même pas Hanor plutôt. Même pas Élie qui a été enlevé dans les... Même pas Paul. Personne n'a jamais vu l'éternel Dieu. Mais nous avons vu son fils, son image. Parce que Yeshua est l'image du Dieu invisible. Le premier-né, c'est-à-dire le premier-né, c'est un titre. L'héritier de ce monde. La source de ce monde. L'ingrédient, le constituant actif de ce monde. Nous voyons ça. Le fondement de ce monde. Parce que la Bible nous dit que il est à l'origine de toutes choses. En lui, car en lui, pourquoi il est le premier-né de toute la... Pourquoi il est le principe de la création, le principe du premier. Vous voyez, ce monde est construit sur le principe des prémices ou le principe du premier-né. C'est ça, ce monde. Parce que le mot Bereshit, Reshit, c'est un autre mot pour désigner le premier-né. Reshit, Reshit. première-née. Donc, Bereshit, on peut traduire dans le principe. Dans le principe. Dans le principe, on peut traduire ça comme ça. Ou bien dans le premier-né. Ou la cause, dans la cause première. On ne la traduit pas au commencement. Mais oui, c'est la cause première. C'est Yeshua qui est la cause première de ce monde. C'est lui qui l'a créé. Le monde sort de lui. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux sur la terre. Les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. L'univers entier repose sur lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Ça veut dire que si Yeshua en vient à ne plus être là, le monde ne sera plus là, l'univers ne sera plus là. Il est le commencement. Voilà. Il est le commencement, le Béor, le premier né d'entre les morts, le prémisse. Enfin d'être en quoi? En tout le premier. Donc la racine, c'est lui. C'est lui l'ingrédient. C'est lui l'origine de quelque chose. C'est lui la source, l'ingrédient, le constituant actif. C'est lui le créateur. C'est sur lui que repose l'organisation de l'univers. Donc nous voyons l'exemple parfait du principe des premiers ou des prémices, c'est lui. C'est Yeshua qui en est la racine. Avant que ce principe se voie dans le monde, qui est le tronc, voilà, la racine, c'est lui. C'est lui, c'est lui, c'est lui. D'accord? Et nous allons voir. Ouais, il est le germe, le point de départ, c'est ça le principe. Il s'appelle le germe. Il y a un verset, comme je pense que c'est dans Ésaïe, hein. Si vous... Je vais vous trouver ça, le germe. Il s'appelle le germe. Voilà, le germe. Si mes souvenirs sont bons. Voilà, dans Zacharie. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi. C'est dans Zacharie 3, le verset 8. Car ce sont des hommes qui serviront de signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Ou bien Ésaïe 4, 2. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Et de la gloire. Voilà. Ou bien dans Zacharie 6, le verset 12, on nous dit. Tu lui diras ainsi par l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est germe, germera dans son lieu, bâtira le temple de l'Éternel. Voilà. Ou bien, dans Jérémie 23, le verset 5, voici les jours, vient dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Un germe juste. D'accord? Un germe de justice ou bien un germe. Son nom est germe. Donc, c'est Yeshua qui est la racine, la cause pour lui. Parce que la Bible nous dit, dans 1 Colossiens 1, le verset 18, qu'il doit être en tout le premier. Le premier. Enfin d'être en tout le premier. Il est la racine. L'illustration parfaite de ce principe des premiers-nés ou ce principe, donc, des prémices. Béor, je parle de Béor, premier né. Réchit, aussi ça veut dire prémice également. Réchit, prémice. Chez les animaux, ou bien chez les. On parle de Bior, Bior, chez les végétaux. On n'utilisait pas le même terme. Et nous voyons ce principe dans le monde que les premiers nés des hommes et des animaux, donc, ont une certaine particularité, une certaine autorité. Voilà le tronc qui est là. Et l'Éternel même, Dieu, a dit que tous les premiers-nés sont à lui. C'est dans Ésaïe. C'est dans Ésaïe. Tous les premiers-nés sont à lui, qu'il appartient. Des animaux comme des hommes. On ne va pas lire dans Lévitique 27, le verset 26. Vous pouvez lire cela. Ou bien l'Éternel demande à ce qu'on lui amène les prémices des moissons dans Ésaïe 22, le verset 29. Ou bien, voilà. D'accord? Et Et Abel connaissait ce principe-là, c'est pourquoi il a offert les premiers-nés de son troupeau et leur graisse. C'est dans Genèse, nous étions partis de Genèse 1, Genèse 4, le verset 3 à 5. Il connaissait cela. Je pense Caïn aussi connaissait cela, mais il n'a pas obéi. Il a profané, il n'a pas considéré l'Éternel Dieu. Il ne l'a pas honoré. Il ne l'a pas aimé. Il a mis les fruits n'importe comment. Donc on ne doit pas servir Dieu, l'Éternel Dieu, n'importe comment. L'Éternel Dieu est un souverain. Et nous voyons également ce principe un peu partout dans la Bible. Donc Jésus en est, Yeshua en est l'exemple parfait. Lisons dans, nous avons lu dans Colossiens, mais hein, lisons également dans Hébreux ou bien dans Romains 8, le verset 29. Romains, le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Ben oui, c'est le premier-né. En fait, que son fils fut le premier-né dans plusieurs frères. Dans plusieurs frères. Ou bien dans Hébreux 1,6, lorsqu'ils introduisirent le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Voilà, que tous les anges de Dieu l'adorent dans Hébreux 1, le verset 6. Donc Yeshua est supérieur aux anges. On nous dit que ses origines remontent au jour de l'éternité. Au jour de l'éternité. Voilà, donc un autre exemple qui illustre ce principe, c'est Ruben. Genèse 49, le verset 3. Parce que Jacob a fait une prophétie qui est étonnante. Qui est étonnante. Voilà, dans Genèse 49, le verset 3. Genèse 49, le verset 3 nous dit, Ruben, toi qui es mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, c'est son premier-né, c'est la première qui donne naissance. Vous voyez, il donne naissance, il donne un être humain supérieur en dignité, supérieur en puissance, impétueux, comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté. Voilà, il a été déchu de son droit d'aînesse, comme Ésaü aussi, hein, qui sera déchu aussi. C'est un exemple de son droit d'aînesse. Mais cette prophétie montre que les premiers-nés ont une place partout. Il y a le droit d'aînesse qui existe. Voilà. Le droit d'aînesse qui existe. Et lorsque dans Genèse 27, dans Genèse 27, dans Genèse 27, dans Genèse 27, quand Jacob a pris la bénédiction et que Ésaü vient, regardez ce qu'il Isaac dit sur le premier-né. Il a dit, il a senti l'odeur de ses vêtements, puis le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu, Elohim, te donne de la rosée du ciel, de la graisse de la terre, du blé, du vin en abondance. Ouais. Que des peuples te soient soumis et que des nations te prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. C'est ça. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Voilà. Donc ça, c'était les bénédictions qu'il a données à Jacob. Et quand Ésaü est venu, et Ésaü dit, Ésaü, ou bien, oui, Ésaü, on dit Ésaü, Esav en le roux, ou bien rouge, Esav, le roux, en hébreu plutôt. Donc, Ésaü a dit, Isaac a dit à son fils Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, je lui ai donné tous tes frères pour serviteurs, je l'ai pourvu de blé, du vin, que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son fils, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Vous voyez? Bénis-moi aussi, mon père. Ésaü éleva la voix et pleura. C'est dans Genèse 27. D'accord? C'est ça, parce que la bénédiction pour les premiers-nés et pour les prémices est particulière. Donc Isaac n'avait pas d'autres bénédictions. Il ne pouvait pas bénir encore Ésaü. C'est fini. Il ne peut pas avoir la bénédiction donc des aînés ou des premiers-nés. D'accord? Ce principe existe parce que le premier-né est héritier des bénédictions, héritier de la foi. Parce qu'il est comme la lumière, le guide, celui qui ouvre le chemin pour ses frères. Et aujourd'hui, Yeshua est l'exemple parfait. Il nous ouvre le chemin vers le ciel. Nous sommes co-héritiers. Il nous donne ses bénédictions. Nous héritons de lui. Nous héritons de lui. C'est lui qui donne, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. C'est lui qui donne tout. Nous avons tout en lui. Si nous l'avons, nous avons tout. C'est ça. C'est ça, c'est ce principe de premier-né. Donc il y a Ruben, il y a aussi Israël. Nous voyons cela dans Genèse et Exode 4, où nous l'avons lu, non, où l'Éternel Dieu a dit à Pharaon que Israël est son premier-né. Hein, Israël est son premier-né. Est-ce que c'est dans Exode 4? Exode 4. Exode 4 est son premier-né. 22 à 23. Je pense que nous l'avons lu aussi. Hein. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né, mon béor. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. C'est la première fois hein, que ce mot est attribué à Israël parce que Israël est l'héritier des promesses de Dieu. C'est lui qui devait enseigner les nations. C'est à Israël qu'il revient le rôle de guider les autres peuples, de leur montrer le chemin vers l'éternel Dieu, vers le seul vrai Dieu. Il n'en a point d'autre. D'accord? Les idoles des nations sont des vanités. Ils ne parlent pas. Ils sont visibles, mais ils ne parlent pas. Alors que l'éternel Dieu, il est invisible et il parle. Il est vivant. Mes frères et sœurs, alors que les idoles ne sont pas vivantes. D'accord? Donc voilà, Israël. Paul aussi l'a dit dans Romains 9. Vous voyez, nous voyons les exemples. Le tronc de l'arbre que nous voyons, parce que nous ne voyons pas la racine, nous voyons que les troncs. Romains 9. Vous voyez, dans Romains 9. Romains 9, le verset 3 à 4, où on nous dit, car je voudrais moi-même être anathème et séparé du Messie pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Messie qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Voilà, il est au-dessus de toutes choses. Yeshua, il est la racine. C'est lui, il est l'exemple parfait du prince. Par lui seul, il illustre ce principe-là. D'accord? Nous voyons cela, les exemples Israël. Israël devait transmettre cette bénédiction à toutes les nations. Il devait enseigner à toutes les nations. Vous savez, Yeshua a dit à la femme samaritaine que les nations, eux, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas Dieu. Parce que les Juifs savent celui qu'ils adorent. Celui qu'ils adorent. Vous voyez, beaucoup de gens proclament le nom de Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Ou bien proclament Jésus, mais ils ne le connaissent pas. D'accord? Et comme l'Église est greffée sur Israël, est greffée sur le tronc d'Israël, sur l'olivier d'Israël, nous aussi nous héritons de ses promesses. C'est ce que La Bible nous dit, nous héritons de ces promesses-là. C'est ce que la Bible dit. Voilà, nous héritons de cette promesse-là. Nous, l'Église aussi, est devenue une prémisse, est devenue première-née, puisque l'Église est greffée donc sur le levier d'Israël. Jacques 1, le verset 18. Jacques 1, le verset 18. Lisons. Je ne vais pas être long. Jacques 1, le verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité. Voilà, c'est ce que la Bible nous dit. Et c'est par la foi que nous naissons. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. N'est-ce pas? Des Écritures, de la parole d'Élohim. Il nous a engendrés. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce, excellence, ou tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Voilà l'Église, les prémices de ces créatures. Nous sommes, nous, les gens qui sont nés de nouveau, nous sommes considérés comme les aînés de l'humanité, comme les premiers nés de l'humanité, comme les prémices que l'Éternel Dieu a rachetées de ce monde, a arrachées de ce monde. Lisons dans Romains 11, le verset 16. Romains 11, le verset 16. Romains 11, le verset 16. Lisons Romains 11, le verset 16. Romains 11, le verset 16. Romains 11, le verset 16. Nous lisons. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Voilà. Nous sommes greffés sur Israël. Mais si quelques-unes de ces branches ont été retranchées, si toi qui es un olivier sauvage, tu as été hanté parmi eux, pas à leur place, hein, parce que Louis II a fait une faute grave à parmi eux ou parmi elles, puisqu'on parle des branches, est rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Donc nous bénéficions de l'héritage d'Israël, puisque nous sommes greffés dessus. Donc nous nourrissons de la sève, de la même sève qui coule de la racine, qui est Yeshua. D'accord? Voilà, nous héritons de cela. Donc l'Église aussi est considérée est comme première-née de ce monde, faisant partie donc des prémices de ce monde, des prémices que l'Éternel Dieu a racheté. Donc voilà. Et on le dit encore que dans 1 Corinthiens 15, mais que le Messie ressuscite des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Voilà. Prémices. Nous aussi. Il vient en premier et nous suivons également. Donc voilà les exemples que nous voyons dans la parole de Dieu, puisque la vérité est établie sur la déposition de deux ou de trois témoins. Mais je disais dans mon précédent message que les prémices ou le premier-né, c'est comme la meilleure partie. C'est ce que Abel a fait, la meilleure partie. Maintenant, nous voyons la concrétisation donc de ce principe dans nos vies. Ou bien quel est l'impact ou la traduction de ce principe dans notre vie, ou bien dans notre fonctionnement, dans notre relation avec l'Éternel Dieu. dans les offrandes, regardez ce que Abel a fait. La meilleure. Vous savez, Abel a donné la meilleure partie de son troupeau. Il a sélectionné parce que l'Éternel Dieu, il a honoré Dieu, il a élevé, il a sanctifié, on peut le dire, il a glorifié, il a adoré. C'est pas ce qu'a fait Ananias et Saphira. Ils n'ont pas tout donné. Ils ont retenu une partie. Ils ont donné de leur superflu. Ainsi de suite. Dans les offrandes, par exemple, dans tout ce que nous donnons à l'Éternel Dieu. Et c'est ce que Yeshua a fait comprendre. Bon, je commence par les offrandes, mais bon, voilà, c'est pas parce que je cherche quelque chose, mais non. J'ai commencé, ça m'est venu comme ça, hein, j'ai commencé pas, puisque c'est, nous parlons de ce que Abel a fait à l'Éternel Dieu, donc je commence par les offrandes. Par les offrandes. Et c'est ce que Yeshua aussi a dit. Je pense que c'est dans Luc 10, le verset 42. On va voir, hein. C'est dans Luc 10, le verset 42, en parlant de la vieille dame qui a donné, verset 42. Non, c'est Marie, peut-être c'est dans Marc. Lisons plutôt dans Marc. Dans Marc, dans tout ce que nous donnons à l'Éternel Dieu, nous devons donner la meilleure partie, les offrandes. Dans Marc 12, le verset 42. Dans Marc 12, le verset 42. Dans verset 42. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Et il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit deux petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Yeshua, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Voyez, elle a tout donné à Dieu, elle a donné sa meilleure, tout, 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 tout. C'est ça, les offrandes. Il faut donner la meilleure partie, il faut donner. C'est pas simplement la dîme, parce que beaucoup de gens s'arrêtent à ça. Moi, je ne m'arrête plus à ça maintenant. Vous savez, tout ce que j'ai appartient à l'Éternel Dieu. Je répète, tout ce que j'ai appartient à l'Éternel Dieu. C'est comme ça. C'est comme ça que j'essaie de vivre actuellement. Parce que beaucoup de gens font un acte religieux de la dîme. Et beaucoup de pasteurs et responsables d'église en profitent également pour s'enrichir, pour culpabiliser les gens. Alors que la Bible nous dit que l'offrande doit être volontaire. On doit donner avec bon cœur à Dieu. Donner, c'est pas simplement faire son devoir religieux de la dîme et puis c'est tout. C'est pas ça. C'est pas ça le message. Dieu n'a pas, l'Éternel Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il a même dit à Israël qu'il n'a pas exigé de sacrifice ni d'holocauste. Il n'a pas exigé, mais il a demandé que leur obéissance. Écoute Israël, Shema Israël, l'Éternel ton Dieu est un, ou bien est le seul Éternel. L'Éternel ton Dieu est le seul Éternel. D'accord? Voilà. Donc nous devons, mais avant les offrandes, d'abord, nous devons d'abord donner notre vie. Notre vie tout entière d'abord. Nous devons donner cela. Nous devons donner notre vie. Notre vie tout entière. Dans Romains 12, le verset 1 que nous connaissons. En tant que disciple, notre vie doit être tout entièrement à l'Éternel Dieu. Je vous encourage donc, mes frères et sœurs, par les compassions de l'Éternel Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Comment donne-t-on tout à Dieu? Ne pas se conformer au monde actuel. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Beaucoup de gens ont passé des années dans le Messie ou bien en Christ, mais leur caractère n'a pas changé. Ça, c'est grave, ça. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Moi, je ne comprends pas cela. Vous voyez, leur mentalité n'a pas changé. Même dans le commerce, ils continuent toujours de tricher, alors qu'ils mettent sur leur enseigne, dessus leur boutique, Dieu pouvoir, ou bien l'Éternel est Dieu, ou bien Jésus est Seigneur. D'accord? La Bible nous dit que nous devons donner toute notre vie, tout notre corps, d'offrir. Et ça passe par un changement de notre mentalité. Être transformé, c'est comme Dieu transforme notre cognition, transforme notre manière d'être, de penser le monde, de recevoir les informations de ce monde, de parler. Dieu transforme tout en comble, transformons tout de notre vie. Lisons dans 2 Corinthiens, ouais, 2 Corinthiens, le verset 8, 3 à 5. 2 Corinthiens 8, 3 à 5. 2 Corinthiens 8, 3 à 5, on nous dit, je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens, en parlant des Thessaloniciens, non, oh, des Macédoniens, même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. C'est ce que je disais tout à l'heure à propos des offrandes. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes à l'Éternel Dieu, à Jésus, puis à nous par la volonté de l'Éternel Dieu. Ils se sont donnés eux-mêmes à Yeshua. Vous voyez, dans le Nouveau Testament, dans le... Bon, je n'aime pas trop le terme Nouveau Testament. Dans les écrits du Nouveau Testament, bon, puisque c'est ce qui est c'est ce que nous, en tout cas, le Nouveau Testament. Allons, passons, passons. Je ne dirai pas ce que j'ai à dire. Dans le Nouveau Testament, donc, le mot Elohim ou l'Éternel est remplacé par Seigneur. Donc on ne sait pas si on parle de Jésus ou de Dieu ou du Père. Vous voyez ici, c'est un flou que on ne comprend pas. On ne comprend pas. Donc c'est le contexte qui nous fait, qui permet de comprendre des fois, quoi. Vous voyez, donc ces traditions n'ont pas obéi, n'ont pas été fidèles jusqu'au bout. Et ce sont les Macédoniens à l'église de Macédoine. Ce sont eux-mêmes d'abord donnés. L'Éternel Dieu n'a pas besoin du salaire d'une prostituée ou d'un chien. N'a pas besoin de ça. Donc les Macédoniens se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et se sont donnés aussi au... C'est-à-dire que dans le service aux apôtres, en servant les apôtres, avant de pourvoir aux besoins des saints qui étaient à Jérusalem. On a vu Marc, on a vu Psaume 19, le verset 1. Psaume 19, le verset 1, lisons dans Psaume 19, le verset 1. Psaume 19, le verset 1. Bon. Au chef de chœur, psaume de David, ou bien au chef des chantres, Natsa, ça veut dire exceller, être brillant. Vous voyez, même dans la louange, nous devons être brillants. Et par le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint qui nous rend brillants. Ce n'est pas par des techniques que beaucoup de gens utilisent aujourd'hui, des techniques pour être brillant, pour montrer qu'on chante. Mais ça n'a aucun impact sur l'auditoire. C'est pourquoi l'auditoire reste figé, reste pareil, il n'y a pas de changement dans la vie, ainsi de suite. Et ce verbe, natsa, est conjugué au mot de pierre, c'est-à-dire c'est un intensif. Quand on dit, par exemple, on dit le verbe briser, par exemple, on le conjugue au mot pierre, c'est que il réduisit vraiment à miettes. C'est un massacre. Il a brisé, mais il a réduit à miettes. Donc, c'est un intensif. Donc, cela veut dire que quand on dit au chef des chantres, pensez qu'on dit l'excellence. Donc, celui qui va chanter le psaume ou qui a écrit ce psaume l'a fait d'une manière brillante, d'une manière excellente. Vous voyez, c'est ça au fait. Dans tout ce que nous devons faire, dans la louange, dans l'œuvre de Dieu, nous devons viser l'excellence. Parce que l'Éternel Dieu est un roi. L'Éternel, ouais, on nous a parlé de Yeshua tout à l'heure, qu'il est le prince des rois de la terre. Il est le premier, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et il revient bientôt régner sur la terre, à partir de Jérusalem, régner sur la terre. Voilà, dans la louange, même dans la prière, nous devons chercher cela, l'excellence toujours. Ésaïe 38, lisons dans Ésaïe 38. Ésaïe 38, Ésaïe 38, le verset 18 à 19. 38, 18 à 19. Ce n'est pas le séjour des morts qui te célébrera, ce n'est pas la mort qui te louera. Ceux qui sont descendus dans la tombe n'espèrent plus en ta fidélité. C'est le vivant. Oui, c'est le vivant qui te célèbre comme moi aujourd'hui. C'est le Père qui fait connaître ta fidélité à ses enfants. Mais oui, notre vie doit célébrer là, doit célébrer l'Éternel Dieu. Vous voyez? Nous devons célébrer. Ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel. Parce que la parole de Dieu, vous savez, chez les Juifs, ils appellent la Torah de vie. C'est ce que l'Éternel m'a dit. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie, je te mets ce chemin. Prends ce chemin, choisis la vie. Dieu n'est pas le Dieu des morts. L'Éternel Elohim. L'Éternel Dieu est le Dieu des vivants. C'est pourquoi il ose. Il s'appelle, en tout cas, lui-même se nomme, qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaïe et de Jacob. Yeshua l'a expliqué à ses contemporains que si l'Éternel Dieu se nomme le Dieu d'Abraham, d'Isaïe et de Jacob, c'est pour dire que pour lui, Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. Parce que l'Éternel Dieu n'est pas le Dieu des morts. Ce ne sont pas les morts qui le célèbrent, ce sont les vivants. Donc célébrons Dieu pendant que nous sommes vivants. Mes frères et sœurs, ce n'est pas en mourant que nous allons célébrer l'Éternel Dieu, ou bien que nous allons dans la tombe, on va nous canoniser, nous serons un saint, donc nous allons prier pour les autres. Non, ça n'existe pas. C'est une fausseté. C'est une fausseté. Les morts n'ont plus part aux choses de ce monde, aux choses de la vie de ce monde. La Bible dit qu'ils se reposent. Qui se repose, d'accord, mes frères et sœurs. C'est le vivant qui loue. Célébrons dans notre vie maintenant que nous allons célébrer l'Éternel, que nous allons jouir de ses bénédictions, de ses bienfaits, que nous pouvons jouir de la communion fraternelle. C'est pas dans la mort. C'est pourquoi il est important que nous nous attachions à la communion fraternelle en célébrant, en nous faisant du bien, mes frères et sœurs. Lisons également dans Ecclésiaste 1, Ecclésiaste 1, le verset, nous connaissons ça, hein, 19 à 22, ou bien ah non, Ecclésiaste 11 plutôt, où on parle de la jeunesse, notre jeunesse, c'est dans notre jeunesse que nous devons célébrer l'Éternel, consacrer notre jeunesse à l'Éternel Dieu, voyez. Ce n'est pas, on va, ne va pas attendre 70 ans pour venir. Bon, il y a des gens, par la grâce de Dieu, qui sont sauvés à l'âge de 70 ans. Je loue le Seigneur pour cela. Mais si l'Éternel Dieu nous fasse grâce d'être sauvés, de le connaître durant notre jeunesse, nous devons lui consacrer notre jeunesse, lui consacrer, le servir. Ce n'est pas, ou bien c'est un, oh non, moi je vais attendre quand je serai vieux, je vais célébrer Dieu. Ou bien quand je serai à la retraite, je vais œuvrer pour Dieu, je vais faire l'œuvre de Dieu. Mais non, ce n'est pas quand tu vas être un tamal ou tu auras mal au genou, tu ne pourras même pas te déplacer, que tu vas vouloir célébrer l'Éternel Dieu. Mais non, ou bien faire l'œuvre de l'Éternel Dieu. Mais non, c'est maintenant, quand l'Éternel Dieu te fait grâce d'être sauvé pendant ta jeunesse, c'est maintenant. C'est ta jeunesse, tu dois consacrer en évangélisant, en te donnant entièrement à lui, hein, et à sa volonté. Ecclésias 11, le verset 9 à 12, on nous dit, jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence, livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse, marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Chasse le chagrin de ton corps, éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et la jeunesse partent en fumée. C'est vrai que ça part tellement vite. Ça passe tellement vite. Aujourd'hui, nous sommes tous avec mes amis, les frères qui sont nés de nouveau en même temps que moi. Nous sommes dans la cinquantaine. Hein. Nous avons tous dépassé la cinquantaine. Donc, voilà. Donc, et j'exhorte les jeunes là qui vont écouter ce message et qui sont nés de nouveau, ou bien nos enfants, je les exhorte vraiment. Ah, et aussi ceux qui sont plus âgés, hein, même les vieux qui sont venus, ou les ouvriers de la 11e heure, hein, qui sont venus à Yeshua, qui sont nés de nouveau, donc pendant leur vieillesse, ou bien un âge tardif, de faire l'œuvre également de Dieu, de continuer à œuvrer et pour l'Éternel, notre Dieu. À œuvrer pour l'Éternel, notre Dieu. Hein, d'accord? Donc, n'attendez pas, hein, n'attendez pas que vous soyez un tamalou avant de vouloir célébrer l'Éternel Dieu. Hein, nous devons consacrer aussi la meilleure partie pour Dieu, le temps nécessaire pour la prière et pour la méditation. Lisons dans Luc. Dans Luc 10, le verset 42. Dans Luc 10, le verset 42. Luc 10, le verset 42. Mais l'exemple, excusez-moi, Luc 2, le verset 42, où Yeshua a dit de Marie qu'elle avait choisi la bonne part. Et c'est vrai. D'accord, il y a, bon, moi-même, hein, je m'inclus dedans parce que des fois, nous n'avons pas le temps et nous ne passons pas vraiment le temps dans la prière. Nous faisons quelque chose de rapide et nous partons. Moi, avec le temps maintenant, je pense qu'il ne faudrait même pas faire ça. Si tu n'as pas le temps de consacrer à Dieu, alors ne le fais pas. Quand tu auras le temps, tu le feras. Ce n'est pas un exercice religieux. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera jamais enlevée. Nous nous souvenons également de Anne et de Simon. Simon qui était dans le temple. Voyez, Anne, depuis l'âge de 27 ans, a consacré sa vie à l'Éternel Dieu. C'est une bonne. Simon aussi. Et il priait, les deux la priaient dans le temple. Et l'Éternel Dieu les a honorés en leur montrant son Fils, en leur disant, voilà, le Messie est là. Si nous aussi nous persévérons dans la prière, dans la méditation avec Dieu, en lui donnant le meilleur de notre temps, en lui donnant vraiment cette disponibilité-là. Je ne vous dis pas de consacrer 5 heures, 6 heures, mais non, c'est pas ça. Mais être disponible pour Dieu, être disponible parce que l'Éternel Dieu parle. J'ai écouté un message de à propos d'Esther, en tout cas un message de Jean-Marc Tobois. Il dit ce qui est anormal, c'est lorsque Dieu ne parle pas. Et c'est vrai. Ce qui est anormal, c'est que quand Dieu ne nous parle plus. Ça, c'est anormal, ça. D'accord, mes frères et sœurs. Donc, nous ne pouvons entendre la voix de Dieu que lorsque nous passons du temps avec lui, que lorsque nous sommes disponibles dans sa présence. Je ne sais pas si vous. Voilà, donc c'est ça que nous devons faire. Voilà les prémices. Le principe des prémices, c'est ça. Quand tu consacres ce temps, quand tu es dans cette dynamique, dans ce principe, tu as un résultat. L'Éternel Dieu te parle. Il te couvre de bénédictions. Il te révèle des choses. Parce que la Bible nous dit, Dieu, l'Éternel Dieu fait-il quelque chose dans une ville sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes, c'est ça. Mais ce n'est pas quand tu seras en train de jouer au foot, quand tu seras en train de danser, quand tu seras en train de regarder la télé que l'Éternel Dieu va te parler. Beaucoup de gens consacrent leur temps, ont regardé plus de télé que de qu'à prier, non? Lorsque nous ferons le compte de notre vie à la fin, certains d'entre nous auront plus regardé la télé que lire la parole. Auront plus consacré du temps à regarder la télé, à visionner la télé, les vidéos, qu'à méditer et qu'à prier, ou bien qu'à évangéliser. D'accord? C'est pas normal, ça. Nous sommes des disciples, des ambassadeurs. C'est par nous que l'Éternel Dieu passe, comme des premiers-nés, comme des prémices. Nous sommes la meilleure pâte, mes frères et sœurs. Vous qui êtes nés de nouveau, vous qui m'écoutez, vous êtes la meilleure part que Dieu, que l'Éternel Dieu a racheté dans ce monde pour pouvoir envoyer aux autres. Regardez, nous sommes les premiers-nés, l'aîné. Donc ne profanons pas notre droit d'aînesse. Ouais, il y a ce verset que personne ne soit comme profane comme Ésaü, non? Comme Ésav. Profane. Profane, que personne ne soit comme profane comme Ésaü. Que personne ne soit comme. C'est dans Hébreu, je pense. Hein? Je ne sais plus, mais je pense que c'est dans Hébreu. Oh non, je n'ai pas trouvé. Ah, voilà, c'est ça. Hébreux 12, le verset 16. Hébreux 12, le verset 16. Hébreux 12, le verset 16. Oh non, je lis dans second 21. Veillez à ce qu'aucun de vous ne fasse preuve d'immoralité sexuelle ou ne se montre profanateur comme Ésav, qui pour un seul repas a vendu son droit d'aînesse. C'est ça. Vous savez que plus tard, il a voulu obtenir la bénédiction, mais a été rejeté. En effet, il n'a pas pu amener son père à changer d'attitude, bien qu'il l'ait cherché avec larmes. Mes frères et sœurs, si j'ai appris quelque chose d'un serviteur de Dieu, il y a des scandales, des fois, qui nous coûtent très, très, très cher. L'Éternel Dieu pardonne, il est miséricordieux. Mais il y a des péchés qui nous coûtent cher. Il y a des scandales et qui nous coûtent très 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 cher. Voilà, comme Ésaü. Il a profané son droit d'aînesse. Il a méprisé. Ne méprisons pas nos droits d'aînesse, mes frères et sœurs. Nous sommes les aînés, les premiers-nés, les aînés. Nous faisons partie du principe de ce monde, puisque nous sommes en Yeshua, qui est l'illustration du principe des prémices, du principe des premiers-nés. Nous sommes en lui. C'est en lui que nous sommes. Mes frères et sœurs, donc ne profanons pas nos droits d'aînesse en nous comportant comme des païens. Aujourd'hui, l'Église ou bien les bâtiments d'Église sont remplis de païens christianisés. De païens christianisés. C'est comme ça. Si on enlève le CH de chrétien, il reste quoi? on enlève le H et le E à la fin, le He qu'on l'enlève. Bon, je fais un jeu de mots, hein. Le He, c'est le souffle de l'esprit. Quand on enlève ça dans chrétien en français, ça donne crétin. Hein. Comprenez, ça donne crétin. Mais ne sont pas des crétins, ne sont pas des profanateurs comme Esaü, comme Ésav, hein, que pour un repas vendu son droit d'aîné. Voilà, mépriser, ne méprisons pas. Donc conduisons-nous comme des aînés, conduisons-nous comme des prémices de ce monde, comme des premiers-nés. Obéissons à la parole de Dieu, sanctifions-nous. Vous voyez, quand nous nous mettons à part, la sanctification, c'est en nous mettant à lorsque nous nous mettons à part. L'Éternel, l'Esprit de Dieu nous pousse à être à part. Et l'Éternel Dieu nous purifie de toute cette mentalité. La sanctification, ce n'est pas d'emblée la purification de nos. Ce n'est pas d'abord la purification. Nous nous mettons à part et l'Éternel Dieu maintenant nous malasse, nous émonde. Il y a des degrés dans la sanctification. Il y a des stades dans la sanctification. Il y a une progression dans la sanctification. C'est pourquoi la Bible dit d'achever notre sanctification. D'accord? Ne soyez pas comme Ésaü. Ou bien, ouais, ne faisons pas preuve d'immoralité sexuelle. C'est ça. Aujourd'hui, les fiancés veulent commencer à vivre maritalement. À faire des choses avant, voilà, entretenir des relations intimes avant de se marier. C'est ce qui se passe dans de nombreuses communautés. Moi, c'est l'écho, hein, qui m'est parvenu, même la dernière fois, j'ai entendu des choses comme ça. Oh, les jeunes d'aujourd'hui, la jeunesse chrétienne ne considère plus cela comme un péché. Comme nous allons nous marier, nous pouvons commencer. On dit souvent que celui qui est pressé va doucement, n'est-ce pas? C'est pas ce que l'on dit. Voilà. Le péché, c'est lorsque l'Éternel Dieu ne te donne pas l'autorisation de faire quelque chose et tu le fais, tu pèches. Parce qu'il a mis des limites. Il y a un principe des aînés, des prémices. Il y a aussi un principe des limites. J'avais écrit un article là-dessus. Il faut que vous lisiez cet article. Le principe des limites. Peut-être que je le mettrai en audio si j'ai le temps. Le principe des limites, mes frères et sœurs. Donc je termine sur ça. Et nous allons lire. Pour terminer sur ça, on nous dit, pour pouvoir rentrer dans ce principe, nous devons véritablement aimer l'Éternel Dieu de toute notre force. Luc 10, le verset 27. Je termine sur ça. Ou bien lorsque Yeshua dit que nous devons d'abord chercher le royaume et la justice de l'Éternel Dieu, la justice de Dieu, le royaume, c'est-à-dire lui-même. Dans Luc 10, le verset 27, je termine sur ça. Sinon, je peux encore prolonger. Hein. Je termine sur ça. Luc 10, oui, Luc 10, le verset 27. On nous dit. Alors, comment la comprends-tu? Je lis la version Semeur. Il lui répondit. Tu aimeras le Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée. Voilà, mes frères et sœurs. Si nous sommes là-dedans, voilà, nous accomplirons donc ce principe. Nous marcherons dans ce principe sans difficulté. Que l'Éternel, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous donne la grâce. Hein, d'obéir à sa parole, de passer du temps, d'aimer sa présence, d'aimer passer du temps avec lui, d'aimer être à ses pieds pour l'écouter, comme Marie. C'est ce que Yeshua a dit. Marie a choisi la bonne part. Il n'y a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire, qu'une seule chose, a dit l'Éternel. Yeshua, une seule chose est nécessaire. une seule chose, c'est-à-dire être au pied de du Seigneur Yeshua. C'est ça. Ou bien l'avoir, Yeshua. Si nous avons Yeshua, nous avons tout, mes frères et sœurs. Ne cherchons pas autre chose là. Ne cherchons pas de gauche à droite. Bénédiction, là, vous voyez, beaucoup de chrétiens maintenant font ça. Des mercatos spirituels. Ils font des mercatos spirituels. Ils vont là. Il y a un séminaire, là, il y a un grand prophète. En tout cas, Dieu seul sait s'il est grand ou pas, en fait. Et un grand prophète ici, celui-ci est là. On fait des mercatos, on va ici, on là, ainsi de suite. On cherche que des bénédictions, on cherche ceci. Alors que c'est, il est là, Yeshua. C'est lui. Si nous l'avons, nous avons tout. Si nous avons, nous avons Yeshua dans nous. Nous avons tout là. C'est pas la peine de courir de gauche à droite. Il est vrai que les saints ministères sont là pour nous édifier. Mais tu n'as pas besoin de payer de l'argent pour ce qui est gratuit, mes frères et sœurs. Donc, ressaisissons-nous. Une seule chose est nécessaire, d'être au pied de Yeshua. Donc, aimons passer du temps avec lui et personne ne nous enlevera cela. Et Yeshua l'a dit, Marie, Myriam a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlevera. Mais personne ne peut te l'enlever, même pas le diable ne peut t'enlever cela si tu es chaque jour au pied de Yeshua. Que le Tout-Puissant Dieu nous bénisse et nous garde. Amen et Amen.